Les grands titres de ce 29 août, la Corée du Nord condamnée à nouveau pour son dernier tir de missile balistique qui est passé sur le Japon. La ville de Houston aux États-Unis continue à faire face à des inondations sans précédent. Trois Australiennes se qualifient pour le premier round de l'US Open de tennis. Et d'abord, le Japon qui déclare que le dernier tir de missile balistique de la Corée du Nord est une autre menace à laquelle Tokyo va répondre fermement. Le missile est passé sur le territoire du Japon. Écoutez le Premier ministre Shinzo Abe.
North Korea has launched a missile. It's likely that it has flown over our country. We'll immediately gather information and analyze it and take all possible measures to ensure people's safety.
Le Premier ministre japonais. Le Japon travaille étroitement avec les États-Unis, la Corée du Sud et les autres nations concernées pour une action ferme contre la Corée du Nord. On écoute la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop.
To fire a missile over the territory of another nation is threatening, dangerous and provocative. North Korea is in breach of numerous UN Security Council resolutions and is acting illegally. Australia urges all countries to fully implement the UN Security Council resolution sanctions, which will take effect shortly, hoping that this will mean North Korea will reassess its calculation of risk.
Julie Bishop, la porte-parole de l'opposition fédérale sur les questions des affaires étrangères, Penny Wong, a aussi fait cette déclaration.
This is a highly provocative act. This is a deeply provocative act, a deeply disturbing act, and confirms yet again that the greatest threat to peace and stability, not only in our region, but globally, is the North Korean regime.
Penny Wong de l'opposition fédérale. Les services d'urgence aux États-Unis s'engagent à aider le Texas le plus rapidement possible. Après les graves inondations, plus de 30 000 personnes ont besoin des abris d'urgence. Brock Long est du Federal Emergency Management Agency.
This is a landmark event. We have not seen an event like this. It's been a very challenging effort for the National Weather Service. We've been telling people that this is coming. It's still ongoing. The bottom line is that it's going to continue on. We need the whole community, not only the federal government forces, but this is a whole community effort from all levels of government, and it's going to require the citizens getting involved.
Et on passe maintenant au reportage de Jean-Louis Porté pour Radio France Internationale.
C'est Houston qui, à son tour, est frappé. On y voit plus d'embarcations variées, canots pneumatiques, barques, kayaks ou bateaux à moteur, que de voitures qui ont de l'eau jusqu'aux vitres quand elles ne sont pas complètement recouvertes. Ceux qui ne disposent pas de canots marchent avec de l'eau jusqu'à la taille, essayant de trouver refuge dans l'un des nombreux abris ouverts par la Croix-Rouge et autres organisations humanitaires. La FEMA, l'Agence fédérale des secours d'urgence, certes mieux préparée qu'en 2005 au moment de Katrina, a, avec ses 5000 employés, du mal à faire face à toutes les demandes. Les gardes-côtes ont augmenté le nombre de leurs hélicoptères pour secourir ceux qui sont bloqués au sommet de leur maison envahie par les eaux. En dépit de cette assistance, les Texans ne doivent souvent compter que sur eux-mêmes pour se tirer d'affaire. Mais il y a une grande entraide entre les réfugiés. Le président Trump, qui pour le moment obtient une bonne note pour sa gestion de la catastrophe, doit se rendre demain au Texas pour voir, mais probablement à distance, l'ampleur des dégâts. Il devrait éviter en effet les zones inondées pour ne pas perturber les opérations de sauvetage.
Jean-Louis Porté pour RFI. Le mini-sommet sur l'immigration à Paris qui a réuni et rassemblé des dirigeants européens, français, italiens, espagnols, allemands et des dirigeants africains, nigériens, chadiens et libyens. On écoute le président français Emmanuel Macron qui a présenté un plan d'action.
Identifier les ressortissants qui ont droit à l'asile selon les règles actuelles et pouvoir les mettre en sécurité le plus rapidement et leur donner cet asile en commençant la procédure dès le territoire africain. C'est un élément important parce qu'il évite à des femmes et des hommes de prendre des risques inconsidérés dans une zone extrêmement dangereuse et qui le demeure dans une part du désert, puis en Méditerranée. Cette identification se fera sur les listes du HCR et des listes fermées c'est-à-dire les migrants d'ores et déjà identifiés par le HCR et résidents dans ces deux pays de passage. C'est ensuite une action de coopération en matière de sécurité, de justice, parfois de présence militaire sur le terrain, avec le Niger et le Tchad, pour prévenir d'autres débordements et l'accroissement de ce flux vers la Libye, qui viendrait gonfler des camps de migrants déjà saturés. Et enfin, c'est la possibilité d'organiser un retour vers les pays d'origine par des actions de coopération directe, pays par pays, avec les pays d'origine et par une action en matière de développement à cet égard.
Le président français, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est au Proche-Orient pour 3 jours, une première depuis sa prise de fonction en janvier dernier. Hier, il était en Israël avant de se rendre dans les territoires palestiniens. Correspondance de Christian Brunel pour RFI.
Entre le secrétaire général de l'ONU et les dirigeants israéliens, la discussion a vite tourné au dialogue de sourds. Antonio Guterres n'est pas parvenu à faire partager ce qu'il appelle son rêve de voir un jour en Terre Sainte deux États vivre dans la paix et la sécurité. Du côté israélien, en effet, les négociations avec les Palestiniens sont pratiquement hors sujet actuellement. Pour Israël, l'ONU ferait mieux de donner ordre aux casques bleus déployés au sud du Liban d'empêcher les combattants du Hezbollah de s'approcher de la frontière israélienne. Autre message, les Nations Unies devraient agir pour éviter que les militaires iraniens occupent les positions perdues par les djihadistes de Daesh en Syrie, ce qui pourrait menacer la sécurité d'Israël. Pour couronner le tout, Benjamin Netanyahou s'en est pris, je cite, à l'obsession absurde des Nations Unies contre Israël. Antonio Guterres a bien tenté d'arrondir les angles en dénonçant le terrorisme, les incitations à la haine et l'antisémitisme, mais sans grand succès, d'autant plus qu'il a critiqué la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Christian Brunel pour RFI. En Australie maintenant, la star aborigène de musique rock, Dan Sultan, se joint à d'autres personnes pour essayer de changer la date sur les célébrations de Australia Day. Il était sur le programme Q&A de l'ABC hier soir.
I think there are many days throughout our history that includes everybody. And I think it's important that a day called Australia Day includes all Australians. The fact of the matter is that it doesn't include us. It excludes us. And it excludes anyone who has any type of sympathy or empathy towards our story, which is a hell of a lot of Australians. So to call it Australia Day is wrong.
Le musicien Dan Sultan, le procureur général George Brandis, qui était aussi l'invité de ce programme, n'est pas d'accord pour changer la date du 26 janvier, Australia Day.
There is a natural logic about the 26th of January as the point in time at which the Australia we now recognise, modern Australia, had its beginning. On Australia Day, we both celebrate the nation, the good nation, the good inclusive nation that Australia has become, while at the same time reflecting on those parts of our history that are dark passages.
Le procureur général George Brandis, le recyclage en Australie occidentale avec toute personne qui va désormais pouvoir réclamer 10 cents pour chaque bouteille ou canette ramenée à un dépôt. Et ce sera à partir de 2019, annonce le ministre de l'Environnement, Stephen Dawson, sur l'ABC.
They're very keen to participate in this process. We have to have a partnership on waste in Western Australia. We need community and industry to work together to ensure that we are recycling.
Voilà le ministre de l'Environnement en Australie-Occidentale. Un mot de sport avec l'US Open de tennis, avec 3 Australiennes qui passent le premier tour. Ash Barty qui a gagné contre la Croate Anja Konja. Anna Rodionova gagne aussi, ainsi que Alia Tomljanovic. Chez les messieurs, Bernard Tomic est éliminé par le français Gilles Simon, 3-6, 6-3, 6-4 et 6-4. Et puis la championne de Wimbledon, Garbine Muguruza, a gagné contre Varvara Lepchenko. On l'écoute.
I got big wins recently and a lot of matches in a row that I failed, that I was playing good and that I won. But I said before, you know, coming here into US Open, having a dark pass, maybe in the results, I keep it with low expectation. You know, I take every match as a final, you know, because it's very important. And happy that this first round went my way and looking forward to actually, you know, match my best result here.
Garbine Muguruza, la championne de Wimbledon à l'US Open. La comédienne française Mireille Darc est décédée à l'âge de 79 ans. à son domicile parisien avec Alain Delon à son chevet. Isabelle Chenu pour RFI revient sur son parcours.
La grande sauterelle, c'est le surnom affectueux qui lui était resté après son rôle de femme libérée dans un film de Georges Lautner, metteur en scène avec lequel elle connaîtra ses heures de gloire. Il la fera tourner dans 13 de ses films. Elle a fait partie des blondes fatales qui enflammèrent le cinéma français des années 60 aux années 90 et fut une muse pour des réalisateurs comme Édouard Molinaro et Yves Robert, qui lui donnera un de ses rôles les plus populaires dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. C'était aux côtés de Pierre Richard en 1972. Une scène culte où elle apparaît dans une robe de Guy Laroche, échancrée jusqu'aux fesses, entérinera définitivement son statut de sexe symbole. Avec Alain Delon qui sera son compagnon pendant 15 ans, elle jouera dans L'Homme pressée, Mort d'un pourri ou Les Seins de glace. Victime de graves problèmes de santé dans les années 80, Mireille Darc sera opérée à cœur ouvert par le professeur Cabrol. Mais le cinéma et la télévision, où elle jouera dans de multiples feuilletons télévisés très populaires, n'arrêteront jamais de lui faire les yeux doux. Parallèlement à sa carrière de comédienne, l'actrice s'était engagée dans de nombreuses causes humanitaires et avait réalisé plusieurs documentaires pour France Télévisions.
Isabelle Chenu pour RFI. Coup d'œil météo pour ce mardi. En Australie, Perth maximale de 22 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 13, Hobart 12, Canberra 12, Sydney 18 degrés, Brisbane 22, Cairns 28, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce 29 août, la Corée du Nord condamnée à nouveau pour son dernier tir de missile balistique. La ville de Houston aux États-Unis continue à faire face à des inondations sans précédent. Fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench